Bonsoir. Un seul sujet est au centre de notre tribune de la presse de ce soir. Il s'agit de la situation sécuritaire et humanitaire très tendue au Nord Kivu suite à la reprise depuis la semaine dernière des combats entre les FARDC et le M23. Une situation qui cause un drame humanitaire et crée la panique et la psychose au sein de la population. Trois confrères seront avec nous dans cette émission. Il s'agit de Benoît Cambéré, il est rédacteur en chef au magazine Les Échos de la région des Grands Lacs, un magazine qui paraît aussi à Kinshasa. Bonsoir Benoît Cambéré.
Bien bonsoir Kachak.
Nous sommes également avec Marcelin Mandouakila, directeur de rédaction au quotidien Forum des As, un journal qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Marcelin Mandouakila.
Bonsoir, bonsoir.
Également depuis Uvira au sud Kivu, patient de Baba Loufira, journaliste et reporter à la radio, le messager du peuple et correspondant de l'ONG, journaliste en danger et Sifi à Grand Lac au sud Kivu. Bonsoir patient de Baba.
Bonsoir, bonsoir à tous les auteurs de la radio Kapi.
Bienvenue à tous dans cette émission. La situation sécuritaire et humanitaire très tendue au Nord Kivu, suite à la reprise depuis la semaine dernière des combats entre les FARDC et le M23, a occupé une large place des colonnes des journaux parues cette semaine à Kinshasa. Écoutons cette revue de presse que nous propose Guy Maté.
La marche des jeunes, des motards et des femmes, des militaires hier à Goma, continue à défrayer la chronique. À sa une, le quotidien Le Phare rapporte que des centaines de jeunes de Goma et des femmes des militaires sont descendus dans la rue pour protester contre un prétendu limogeage du colonel Mamadou Ndala, commandant des opérations au Nord Kivu. D'après les confrères, à Goma et dans le reste du Nord Kivu, on redoute une nouvelle trahison de Kinshasa. Sur le même sujet, le potentiel explique que des rumeurs persistantes prédisant un éventuel rappel du commandant des opérations des forces armées de la RDC sur le front de Goma ont suscité des vives manifestations dans les chefs-lieux de la province du Nord Kivu. Unanime, la population s'est opposée à cette décision distillée dans l'opinion par des sources non identifiées alors que les FARDC récupèrent de plus en plus de terrains sur les rebelles du M23, constate le journal. De son côté, les quotidiens du groupe L'Avenir dénoncent une campagne d'intoxication menée par un M23 aux abois sur Facebook. Aucun commandant FARDC n'a été relevé du front, assure le journal, qui accuse Vianney Kazarama, porte-parole militaire du M23, d'avoir distillé cette rumeur sur le célèbre réseau social. L'actualité a été également dominée par les recommandations issues de l'Assemblée générale des évêques de l'Afrique et de Madagascar, tenues à Kinshasa du 9 au 14 juillet dernier. Les évêques ont lancé un appel pressant aux responsables politiques africains afin que soit mis fin à la guerre qui ensanglante la République démocratique du Congo et qu'ils travaillent non pas pour leurs propres intérêts, mais pour les bénéfices de tous. Telles sont les recommandations exprimées en clôture de l'Assemblée générale du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, SEAM en sigle, qui a eu lieu à Kinshasa. Dans leur message final, les évêques ont invité en outre tous les habitants du continent à s'engager de manière urgente dans la lutte pour un ordre social juste où tous peuvent jouir des droits liés à leur dignité humaine.
Merci beaucoup Guy Maté. Benoît Cambéré, vous êtes rédacteur en chef au magazine Les Échos des Grands Lacs. Cette semaine, l'actualité a été aussi marquée et continue à être marquée toujours par les concertations politiques où différentes tendances politiques, même de la société civile, ont du mal à parler le même langage. Un petit commentaire.
Mais c'est tout à fait normal de la part des politiques et des membres de la société civile congolaise qui ne parlent pas. Ils ne parleront jamais le même langage, même pour des choses claires et limpides. C'est dommage. Et je crois que, comme on l'a vu en début de semaine, heureusement que de part et d'autre, on commence à mettre de l'eau dans le vin de chacun. Et on peut arriver à un compromis à cette allure.
Oui, Marcelin Mandouakila, vous êtes directeur de rédaction au quotidien Forum des As. L'actualité cette semaine a été aussi marquée toujours par la question du lancement de la fibre optique, différentes tendances au CPT et certaines compagnies de téléphonie cellulaire ont du mal à s'accorder sur la fibre optique.
Oui, mais il faut d'abord reconnaître une chose, c'est que nous sommes connectés. La RDC est connectée. Là, ce n'est plus, il n'y a plus de doute possible. Cela a été démontré. Pour le reste, je crois que même le ministre dernièrement a parlé des malfaçons, des trucs dont il a hérité. Je crois qu'il faut mettre en place une structure qui puisse gérer la fibre optique et corriger les erreurs qu'on commence à déceler ça et là. Mais le fait déjà d'être connecté, c'est une bonne chose. Et le reste, c'est de savoir bien gérer la fibre, qu'elle soit effective, c'est-à-dire qu'elle nous apporte les hauts débits dont on parle et que ça nous rende effectivement service.
Mais certaines compagnies de téléphonie cellulaire ont du mal à faire confiance à la SCPT qui est chargée en fait de la gestion de cette fibre optique. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est vrai. C'est comme ça que je parlais d'une structure, c'est-à-dire en fait une structure neutre. Parce que la SCPT d'abord a des problèmes de gestion, et les autres opérateurs, GSM, etc., se demandent si la SCPT peut gérer la fibre. Et si jamais il y avait quelques désagréments après, ce serait des millions de dollars qui vont s'envoler. Donc il faut une structure qui mette d'accord la SCPT, le gouvernement, les opérateurs, pour que nous puissions ensemble gérer la fibre optique.
Mais non, Cambéré, une brève réaction par rapport à la question de la fibre optique.
Bah, écoutez, c'est une histoire de gros sous, malheureusement. Et quand il y a une histoire de gros sous, les gens s'empoignent forcément. Et c'est ce qui est arrivé. C'est vrai, on est connecté, mais les effets de cette connexion, on n'en a pas encore vu. Quand on a lu dans la presse que 100% par exemple de débit entre et seulement 20% arrive à Kinshasa, il y a problème. Imaginez que il faudrait aller jusqu'à Kasumbalesa. Si déjà 20% seulement arrive à Kinshasa, on peut imaginer ce qui va arriver à Kasumbalesa ou à Arou.
Passion Débat Baloufira, vous êtes reporter à la radio Le Messager du Peuple à Uvira. Quelle est l'actualité qui est à la une dans votre province aujourd'hui ou cette semaine?
Oui, l'actualité par rapport au contrôle, je suis d'abord à Uvira, les étudiants de l'Institut supérieur de commerce se sont insurgés hier face à la rupture du courant électrique dont ils estiment être victimes par les gens de la FNEL. Et ils étaient dans leur laboratoire informatique et brusquement le courant a été interrompu et bon, ils se sont appris à des agents de la FNEL. Également, c'est la présence de l'armée burundaise dans la plaine de Ruzizi, à Kiliba précisément dans le secteur 7. La population estime que le gouvernement provincial et central n'a pas fourni des explications nécessaires ou importantes par rapport à leur présence, dès lors que ces militaires commencent déjà à effectuer une opération de patrouille nocturne. Également, il y a aussi une mauvaise nouvelle, c'est que l'agence des voyages au Capi, qui quittait la ville de Bukavu et s'est rendue à Uvira, a connu un accident de circulation au Rwanda, dans un endroit qu'on appelle Zaha, c'est dans le territoire rwandais. Donc c'est parce que c'est ça l'actualité par rapport au niveau de cette partie.
Merci beaucoup, Patience et Baba. Et sans transition, nous abordons notre thème pour l'émission de ce soir. La situation sécuritaire est très tendue depuis la semaine passée au Nord Kivu. Des combats ont opposé d'une part les FRDC au M23 à Mutao, localité située à une dizaine de kilomètres de Goma, et au même moment, le Rwanda a accusé la République démocratique du Congo et la mission des Nations Unies en RDC, MONUSCO, d'avoir délibérément bombardé lundi 15 juillet dernier les villages rwandais de Kageshi et Gasiza à environ 8 à 12 kilomètres au nord de Rubavu, nouveau nom de la ville rwandaise de Gisenyi. Général Joseph Nzabamwita, porte-parole de l'armée rwandaise, cité par l'agence France-Presse, a parlé des deux obus tirés dans les zones contrôlées par les FRDC et la MONUSCO, et lesquels obus ont atterri dans ces deux villages sans faire des blessés. Pour ce pays, il s'agit d'un acte de provocation délibéré, qualifié même d'agression. Des accusations que rejettent le gouvernement congolais et la MONUSCO. Innocent Olenga nous fait le récit.
Les Rwandais soutiennent que les deux obus ont été tirés d'une zone contrôlée par les FRDC et la MONUSCO. Pour ces pays, il s'agit d'un acte de provocation délibéré. Cela signifie que nous avons été agressés, a déclaré à l'agence France Presse le général Joseph Nyabamwita. Mais du côté gouvernement congolais, on s'est dit ne pas être surpris par ce genre d'accusation émanant du Rwanda. Lambert Mende est son porte-parole.
Pour nous, il n'y a rien de neuf dans ces accusations. On se trouve bien en face des stéréotypes habituels de la propagande de nos voisins chaque fois qu'ils tentent de justifier l'injustifiable. Maintenant, ils se rendent compte que, un, l'armée est montée en puissance, deux, la communauté internationale, la communauté africaine est solidaire de la RDC, que toute leur propagande passée ne produit plus les effets escomptés, et ça donne des sueurs froides. D'où cette agitation que nous observons chez ceux qui étaient habitués à entrer au Congo comme un couteau entre dans du beurre, sans aucune résistance.
Pour sa part, la MONUSCO dit n'avoir pas pris part au combat ayant opposé ces derniers jours les FRDC aux rebelles du M23. Ce qui signifie, déclare les porte-parole militaires de la MONUSCO, le lieutenant-colonel Prosper Félix Bass, que la force onusienne n'a tiré aucun obus au Rwanda.
En réaction, la MONUSCO rejette en bloc ces accusations du Rwanda, selon lesquelles la RDC et la MONUSCO ont délibérément bombardé lundi les villages rwandais de Kageshi et Gasiza. La mission onusienne précise qu'elle n'a tiré aucune bombe en territoire rwandais. C'est ce qu'a dit le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en charge de l'état des droits en RDC mercredi lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. On écoute le général Abdallah Wafi dans ses propos recueillis par Belinda Bosuma.
Par rapport à toutes ces accusations contre la MONUSCO, contre la brigade d'intervention, je voudrais dire ici au nom de la MONUSCO que ces accusations, nous les rejetons en bloc. Elles sont sans fondement. Nous n'entretenons aucune relation avec aucun groupe, fut-il le FDLR ou autre. Je vous rappelle que notre mandat, c'est de neutraliser ces groupes armés, pas d'entretenir quelconque relation avec ces groupes-là. Et donc, par rapport à cela, ces accusations, nous les considérons comme extrêmement graves et je peux, au nom de la mission, vous dire que la force de la MONUSCO, l'ensemble de la force, que ce soit la brigade d'intervention, que ce soit la brigade du Nord Kivu, nous n'avons aucune relation, aucun lien avec des groupes négatifs dont nous sommes censés neutraliser les activités pour assurer la protection de la population civile. Je crois que ceci a le mérite de la clarté.
Benoît Kombéré, comment est-ce que vous analysez ce regain des tensions à l'est de la RDC?
Bon, il fallait quelque peu s'y attendre avec l'enlisement qu'il y a eu et qu'il y avait depuis un moment. On avait parlé de la reprise des pourparlers de Kampala. Il y a également l'actualité qui est la mise en place de la force internationale, enfin de la brigade spéciale, n'est-ce pas, de la MONUSCO. On nous a annoncé qu'elle serait mise en place 2 mois après, mais ça continue de venir parce que du matériel lourd venant de très loin, il semble que le matériel malawite, à titre d'exemple, vient de la Côte d'Ivoire où les troupes malawites étaient déployées. Le temps que cela arrive à Dar es Salaam et à rejoindre Goma, ça prend du temps. C'est que on n'est pas encore arrivé au déploiement optimal de la force des Nations Unies la brigade spéciale des Nations Unies qui va s'occuper de démanteler les forces dites négatives, n'est-ce pas, dans la région. Il y a ça, il y a l'enlisement, si on peut dire. On a parlé il y a 2 semaines de la reprise de dialogue entre le M23 et la délégation du gouvernement de Kinshasa. Ça s'est enlisé. Et également, le fait que les Nations Unies commence à ouvrir l'œil et que les choses ne vont pas comme elles doivent être. Maintenant, le ravitaillement du M23 doit poser problème parce que il y a beaucoup d'yeux qui sont dans la région et tout ça fait que on se taquine à gauche, on se taquine à droite, sans compter que les Mai Mai ont aussi joué leur partition en attaquant d'une part et d'autre. Cela fait que c'était monté et puis la dernière chose à ajouter, c'est la montée en puissance quand même des FRDC. Ça fait longtemps qu'on attendait des bonnes nouvelles de la part des éléments des FRDC. Maintenant qu'on commence à en avoir, ça fait que les choses bouillonnent et la reprise des hostilités est apparue encore dans le Nord Kivu avec son lot de déplacés, son lot de misère et même du sang, malheureusement, encore une fois.
Marcel Mantoki, Benoît Kambéré vient de relever un fait important. C'est la nouvelle donne qui est dans ces combats, c'est la bravoure des FRDC. Et ils ont délogé les ADF Nalo à Kamango et le M23 à Moutao. Comment est-ce que vous analysez cet acte de bravoure? Comment est-ce que vous percevez cela?
Effectivement, c'est une très bonne chose. C'est ça le côté positif de l'affaire. Parce que pendant longtemps, on était habitué, lorsqu'il y a des victoires, On parle de FARDC, MONUSCO à côté, etc. Pour une fois, FARDC seul, on a rarement vu ça, ce genre de bravoure. Résiste, repousse. Moi, je crois que c'est un fait important. Moi, si même j'étais au commandement de cette force, je pouvais profiter de l'occasion dès que les M23 attaquent, on contre-attaque et on le rejette plus loin. Ils sortent même du territoire. Vous savez, ça fait très mal aux Congolais d'apprendre toujours, on a occupé tel territoire, ils ont pris Goma, ils sont à 12 kilomètres, ils sont à 8 kilomètres, mais on se dit, mais est-ce qu'on n'a pas d'armée dissuasive? Mais maintenant, les FARDC se réveillent. C'est pourquoi les résultats doivent prendre en compte les rumeurs, faisant état du fait que le commandant qui est au front serait rappelé à Kinshasa. Ce serait une mauvaise nouvelle. Ça rappelle aux Congolais ce qu'il y a eu à l'époque au Sud-Kivu avec Boussamabé.
Il avait commencé. Mais le gouverneur Julien Paluku a même démenti cette information.
Justement, les autorités doivent prendre cela en considération. Donc, comme les forces qui sont là commencent à communier avec la population, ça fait un bon mariage pour déloger l'ennemi. Les FARDC doivent continuer avec ces sursauts d'orgueil pour vraiment libérer les territoires, parce que chaque fois attendre que Roussour est occupé, ils avancent, ils vont à gauche, à droite, c'est pas bon pour l'image d'un pays. Mais bravo les FARDC, c'est un bon départ, mais un départ qu'il faut maintenant consolider. Il faut que ça aille plus loin. Ah. Donc ça c'est très important. Lorsque au Rwanda on parle des obus qui seraient tombés, mais moi ça me fait rigoler, il n'y a pas eu de dégâts. Mais on a resté combien de morts au Kivu depuis que ce genre d'agression ont commencé, avec le Rwanda toujours. On parle de millions de morts.
Oui, plus de 6 millions de victimes même.
Et plus de dégâts matériels importants également, non, n'oublions pas. Lorsque deux obus, même si c'est vrai, moi ça me ferait même plaisir que ce soit vrai, pour que le Rwanda comprenne aussi que nous pouvons répliquer.
On ne peut pas, en fait, on ne peut pas se réjouir des faits négatifs.
Absolument. Non, il n'y a pas eu de dégâts là-bas. Nous avons eu beaucoup de morts, 6 millions, vous l'avez dit. Au nom de quoi? Lorsqu'il y a un obus tombe quelque part au Rwanda, ça doit faire, c'est un fait d'information par rapport au milieu de morts qu'on a enregistré à Kinshasa. Moi, je crois que les FARDC doivent prendre leur courage en main et faire le nécessaire pour protéger l'intégrité territoriale de la RDC.
En vous regardant, Benoît Kambere, j'ai eu l'impression que vous vouliez compléter Marcelin Mandoukila.
Non, lui dire que, attention, il ne faut pas que la RDC tombe dans le piège. Il ne faut pas, à titre d'exemple, se réjouir que des obus sont allés en face. Là, c'est amener... tomber dans le piège qu'on est en train de tendre à la République démocratique du Congo, et ce serait dommage. Vous allez voir tollé général, et ça j'ai apprécié le lieutenant-colonel Mamadou Ndala qui est passé, qui a dit que ça se sent que c'est un militaire formé, que lui ne peut pas tomber dans ce piège au cas où il y aurait quelqu'un qui par inadvertance aurait tiré vers le Rwanda. Il serait sanctionné. Ce n'est pas comme ça qu'il faut qu'on invite le Rwanda et la communauté internationale à revenir dans nos affaires.
Mais faisons l'hypocrisie internationale, monsieur.
Faisons monter en puissance notre armée. On en a besoin. Il fut un moment, notre armée était une armée de dissuasion et personne n'osait nous attaquer. Et que nous, étant une armée républicaine, qu'on ne tombe pas dans le piège de l'ennemi.
Merci, une petite réaction.
Oui, il y a une hypocrisie internationale. Qui ne sait pas que c'est le Rwanda qui arme le M23? Qui ne sait pas? Ça a été dit dans le rapport des Nations Unies.
Ce n'est pas une raison pour que nous tombions dans le piège.
La meilleure victoire, elle est militaire avant d'être politique. Pendant que les pourparlers sont bloqués là-bas, ils nous attaquent, on les repousse et on les déloge.
Merci Marcelin. Merci Marcelin Mandoukila. Nous continuons avec vous cette émission. Passion de Baba Lufira. Marcelin Mandoukila et Benoît Kambere viennent de relever que le Rwanda a accusé la RDC et la MONUSCO d'avoir délibérément bombardé les villages rwandais de Kageshi et Gasiza. Comment est-ce que vous analysez cette réaction du Rwanda?
Oui, par rapport à la réaction du Rwanda qui accuse la République démocratique du Congo d'avoir bombardé in solidum avec la MONUSCO son territoire, je dis les villages de Kageshi et de Gasiza, je pense que cet acte semble être une perte d'équilibre et d'ajustement dans le chef du Rwanda, en ce sens que le Rwanda cherche maintenant à mobiliser toute la communauté internationale sur cette question, et donc vous allez comprendre que c'est une démarche que le Rwanda est en train d'entreprendre pour se victimiser à la place de la véritable victime qui est la République démocratique du Congo. Comment vous aurez analysé cela dès lors que les rapports, je ne sais pas si sont de combien maintenant, les rapports des Nations Unies font état du soutien militaire et technique du Rwanda à l'égard du M23, et qu'aujourd'hui, le Rwanda, comme il y a maintenant plusieurs attaques qui sont menées contre son allié, son partenaire, le M23, tantôt ce sont les FARDC qui attaquent, et récemment c'est les Mai Mai qui ont attaqué les positions du M23, vous allez comprendre que cela crée dans le chef du Rwanda une peur. Et aussi, il faut aussi prendre en considération le début prochain de l'opération que doit mener la force internationale neutre. Cela doit nécessairement faire peur au Rwanda, qui maintenant est en train de mobiliser toute la sensibilité internationale sur cette question. Pourquoi je dis cela? Parce que aujourd'hui, on a besoin de le dire, le Rwanda préside le Conseil de sécurité, étant membre de ce Conseil de sécurité, le Rwanda fait amener tous les États membres des Nations Unies à mettre un regard particulier par rapport à l'opération qui sera bientôt déclenchée, je pense, au mois d'août, par la brigade d'intervention contre les rebelles du M23 qui sont visés de manière particulière. Il y a aussi cet aspect, quand le Rwanda affirme que la RDC aurait bombardé son territoire, moi je pense que le Rwanda devait fournir les éléments plausibles qui prouvent à suffisance que c'est la RDC, conjointement avec la MONUSCO, qui aurait bombardé son territoire. Dès lors que la MONUSCO, vous avez vous-même suivi les points de vue du général Abdallah Ouafi, qui rejette en bloc ces accusations en disant que les troupes de la MONUSCO n'étaient pas au front avec les FARDC. Et d'ailleurs, il a précisé que les FARDC étaient seuls au front avec les M23 et qu'aucun élément, aucun casque bleu n'a participé dans cet affrontement-là. Donc, si il s'avère vrai, comme l'a bien précisé le ministre ayant en charge, ayant à sa disposition les médias, Lambert Mende, que des obis seraient tombés sur le territoire rwandais dans les villages de Kageshi et de Kasiza, il serait vraiment indispensable qu'il y ait une enquête mixte, ou soit une enquête de personnes nettes, soit des experts de la Nations Unies, qui vont déclencher une enquête pour effectivement identifier d'où seraient venus ces obis ou soit ces bombes. Parce que rien n'exclut que c'est le M23 qui aurait lancé des bombes de l'autre côté du Rwanda pour que le Rwanda puisse...
Il n'y a aucune preuve. Vous n'avez eu...
On a aucune preuve. La RDC, la communauté et la MONUSCO.
Oui, Beno Kambere, en voyant le Rwanda accuser la RDC et la MONUSCO, est-ce que peut-on dire que ce pays est en perte de vitesse et est en train de perdre même son influence dans la région des Grands Lacs et même sur le plan international?
Ben, on peut pas l'affirmer comme ça. Hein. Ce qu'a dit le ministre de la communication, qui connaît bien la propagande de nos voisins rwandais, il faut rappeler que le ministre de la communication est un ancien du RCD, n'est-ce pas? Ce qu'il connaît très très bien la propagande et la politique.
Aujourd'hui, les ministres donc du gouvernement.
Il a changé de camp,
donc,
effectivement.
Il est dans le gouvernement.
Oui, c'est-à-dire, non, c'est un background important. C'est dire qu'il connaît les autres et il ne faut pas l'omettre. Et quand il dit qu'il connaît bien la propagande des voisins, il ne faut surtout pas tomber justement dans cette propagande. On sait comment la machine diplomatique rwandaise fonctionne. Quand il commence à inviter la communauté internationale à ce genre de truc, il faut faire très attention et ne pas tomber dans le piège. Certes, la situation n'est pas ce qu'elle était avant. Aujourd'hui, Marcelin l'a même dit, le Rwanda siège au Conseil de sécurité, n'est-ce pas, des Nations Unies maintenant. Et puis, il faut dire que les rapports qui arrivent continuent à accuser, à dire que, certes, on continue, le Rwanda continue à aider le M23, mais de façon moins intense. Il faudrait pas qu'on invite encore la communauté internationale. Certes, il y a un mécanisme de suivi et de vérification qui existe. Et là, je crois que la MONUSCO a bien fait de demander que cette force qui est composée des officiers congolais, des officiers rwandais et des officiers des États de la sous-région aille vérifier le type d'armes, le type d'obus pour que on n'invite pas le Rwanda encore une fois à entrer en guerre à la République. Ils cherchent juste un prétexte pour que le feu reprenne au Nord Kivu et ce n'est un secret pour personne.
Oui, mais donc, comme Bérémy hier, on a remarqué à Goma un sursaut patriotique. La population de Goma a eu l'occasion de descendre dans la rue.
Absolument.
Pour essayer de réagir par rapport à une rumeur faisant état du rappel à Kinshasa du commandant des opérations au Nord Kivu. Comment est-ce que vous analysez cela?
Moi, je me dis qu'il faudrait qu'on cesse cette fois-là avec la langue de bois. Kinshasa doit cesser de répondre, doit cesser d'être à la défensive. Il faudrait qu'on communique maintenant. Il ne faudrait pas que le ministre de l'Information se lève tout simplement pour démentir ou pour dire des choses. Il faut maintenant l'information proactive. Prenez le cas de l'armée burundaise, notre collègue Patient l'a dit, qui est maintenant dans la plaine de la Ruzizi. C'est à partir de Kinshasa qu'on devait nous dire qu'est-ce qui se passe, que fait l'armée burundaise dans la plaine de la Ruzizi aujourd'hui. Et pas attendre que les gens qui sont sur place voient les militaires burundais en patrouille et commencent à crier. L'information doit venir à Kinshasa. Le pauvre, l'honorable Julien Paluku, qui est à Goma, il doit répondre pour Kinshasa. Alors que c'est Kinshasa qui devait donner l'impulsion, calmer la population. Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous pensez que les jeunes de Kanyaruchinya, les jeunes de Mutao, les jeunes de Goma, la société civile du Nord Kivu va s'élever comme ça pour rien? Il n'y a pas de fumée sans feu. Peut-être que, comme d'habitude, on l'a vu, Marcelin l'a encore dit, on a vu à Bukavu, quand le général Mbuza Mabe était là, quand on a commencé à attaquer, on l'a rappelé à Kinshasa. Ça veut dire que Kinshasa, il faut qu'on ouvre les yeux. Peut-être que Kinshasa est en train de travailler contre la population et c'est normal que la population se prenne en charge. C'est normal que la population réagisse parce que quand ils voient pour une fois quelqu'un qui est dans le sens de leurs aspirations et qu'on rappelle comme par hasard, ah ben c'est normal que les gens descendent dans la rue, que les motards, que les étudiants, que les jeunes, que les femmes de militaires, surtout les femmes de militaires qui voient leur mari aller au front et des fois payer de leur vie pour des politiques dont on ne comprend ni les tenants ni les aboutissants, c'est normal que la population se lève et aille dans la rue.
Marcel Mandoukila, comment vous analysez la marche de la population hier à Goma?
Bon, je crois que ce n'est pas un fait de hasard. Et le meilleur démenti pour moi, par rapport au gouvernement, c'est seulement de rendre visible ce commandant. Là où il est, la population voit qu'il est là, qu'il n'a pas été rappelé. Ce serait une bonne chose que de parler du matin au soir. C'est plus convaincant en communication d'ailleurs.
Il est visible, il a même parlé.
Voilà. Dès que c'est fait, même si on a utilisé le réseau social pour décourager, perturber les Congolais, mais dès qu'on le voit, ça rassure. Mais ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. Il faut plus que les Congolais se rappellent de ce qui s'est fait, comme je l'ai dit, comme il l'a rappelé avec Mbuza Mabe. Mais je crois que c'est le moment, plus que jamais, pour le gouvernement de démontrer les efforts qu'il fait pour que la sécurité baisse. Surtout qu'il y a maintenant l'adhésion de la population qui soutient. Je crois qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et pour le Rwanda, je voudrais également ajouter que le Rwanda fait face à diverses, pas près sa menace, mais des communications faites à gauche et à droite pour qu'il y ait un dialogue inter-rwandais. Mmh. Ça aussi, ça fait peur à Kagame. Donc, il a besoin d'une grande diversion pour nous distraire et qui continue à soutenir les M23 et tout ce que cela représente en termes de catastrophe pour les RDC.
Oui, patient Debaba, vous êtes à Uvira au sud Kivu. Le M23 et les FRDC se battent sur terrain à l'est du pays et pourtant les deux parties sont en pourparlers à Kampala. On se demande finalement quelle est la raison d'être de ces négociations. Est-ce que ces négociations vraiment pourraient aboutir à quoi exactement?
Normalement, par rapport au pourparler de Kampala, il faut dire que ces pourparlers n'inspirent pas confiance par rapport à l'avenir sur l'établissement de la paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo, dès lors que les revendications de Kampala semblent ne pas changer. Quand vous lisez l'accord de paix conclu entre les CNDP en 2009 avec les gouvernements, vous allez vous rendre compte qu'il y a des dispositions qui ne doivent pas être acceptées pour un pays qui se dit souverain comme la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Que aujourd'hui, si la reprise des hostilités semble avoir de l'ampleur, c'est parce que les gouvernements se positionnent maintenant en position majeure. Et que vous êtes sans ignorer que les trois moyens, les trois mécanismes de réguler ces conflits à l'aide de la RDC, il s'agit notamment de l'option militaire, diplomatique et politique. Et donc, nous, la RDC ne doit pas privilégier davantage l'option diplomatique et politique tout en mettant de côté l'option militaire, parce que certainement, si l'option militaire aboutisse et politique aboutisse du côté favorable, de manière favorable de la RDC, cela dépendra de la positionnement militaire des FARDC sur les rebelles du M23. C'est ainsi donc que le gouvernement a pris conscience qu'il faudrait beaucoup plus aller dans le sens de privilégier l'option militaire au lieu de privilégier beaucoup plus l'option politique et diplomatique qui, jusque-là, n'inspire pas confiance pour rétablir la paix à l'est de la RDC. Et par rapport à la situation qu'a évoqué mes confrères sur le plateau, par rapport à ce que le colonel Amadou dit, évidemment, il faut dire que si la population a réagi à une sorte de rumeur, mais pourquoi cela? Pourquoi on doit toujours attendre? On doit toujours attendre que les FARDC enregistrent des avancées, enregistrent une amélioration dans leurs prestations pour qu'il y ait des rumeurs qui vont circuler sur une quelconque interpellation de Kinshasa, interpellation de Kinshasa aux officiers militaires qui sont au front. Je rappelle encore une fois à l'attention des auditeurs que avant que Goma ne tombe dans les mains du rebelle du M23, il y a eu des avancées enregistrées du côté des FARDC. Et après, nous avions tous suivi à travers les ondes, à travers des différentes déclarations, qu'il y aurait des ordres venus de Kinshasa demandant aux officiers militaires congolais de reculer, soi-disant c'était du repli stratégique. Et en reculant stratégiquement, nous avions vu ce dont à quoi cela a abouti. La conséquence était la ville de Goma est tombée dans les mains du rebelle M23. Moi je pense que, comme l'a si bien précisé mon confrère, il n'y a pas de fumée sans feu.
Merci.
Dès lors qu'il y a des avancées du côté des FARDC, il n'est pas aussi bon qu'il y ait des présomptions d'interpellation dans le chef du pouvoir central.
Merci,
car cela pourrait démoraliser encore une fois de plus les militaires FARDC qui sont en train de combattre pour sauver l'intégrité territoriale de la RDC dans la partie est menacée par la rébellion du M23 soutenue par les
Rwandais. Merci, patient Beno Kambere. Quel avenir accorder aux négociations de Kampala en deux mots?
Bon, écoutez, en principe, on a commencé. Ce serait bien qu'on atterrisse quand même. Parce que, et la communauté internationale le dit, beaucoup de membres de la communauté internationale le disent, n'est-ce pas? Si on peut trouver une solution sans tirer un coup de feu, ce serait une bonne chose. Mais qu'on respecte la constitution de la République démocratique du Congo.
Marcelin Mandouakela, négocier ou poursuivre l'offensive militaire contre les M23 et les forces négatives?
On fait semblant de continuer à négocier et on poursuit l'offensive.
Absolument.
Parce que quand on est en négociation, le rapport de force compte beaucoup. Il faut que les FARDC, pendant que les autres négocient là-bas à Kampala, avancent, progressent, au point que ceux qui sont sur le terrain politique ou diplomatique soient en mesure de réduire leurs ardeurs, de réduire leurs revendications, de manière à ce que ça ne soit pas comme le CNDP à l'époque.
Merci Marcel Mandouakela. Nous abordons la dernière partie de cette émission. Les évêques catholiques d'Afrique et de Madagascar ont appelé les dirigeants politiques d'Afrique à mettre fin à la guerre qui ensanglante la République démocratique du Congo, causant des millions de morts, des atrocités, des violences et des viols. Ils invitent à travailler non pas pour leurs propres intérêts, mais pour le bénéfice de tous. Ces évêques ont fait cette recommandation dimanche 14 juillet dernier, à l'occasion de la clôture de leur assemblée générale tenue à Kinshasa. Kéline Kouté nous donne les recommandations de ces assises.
Dans leur message final, les évêques invitent en outre tous les habitants du continent à s'engager de manière urgente dans la lutte pour un ordre social juste où tous peuvent jouir des droits liés à leur dignité humaine. Les évêques dénoncent par ailleurs les conflits en cours dans l'est de la RDC, causant des millions de morts, des atrocités, des violences et des viols. Rappelant que la guerre a fait 6 millions de morts en 20 ans et qu'elle déstabilise la RDC en causant des graves violations des droits humains, les évêques invitent l'ensemble des parties impliquées à rechercher une solution à cette guerre et à travailler avec acharnement en faveur de la paix, adressant un appel en ce sens aux Nations Unies, à l'Union Européenne et à l'Union Africaine. Les évêques ont convenu de devoir sensibiliser et éduquer les responsables politiques dans leurs pays respectifs afin qu'ils s'engagent au retour d'une paix durable en RDC. Afin de respecter leur engagement en faveur de la justice et de la réconciliation, les évêques du SCM ont adopté un plan stratégique quinquennal pour la période allant de 2013 à 2018 qui prévoit des projets en matière de gouvernance et des formations aux pratiques démocratiques et aux biens communs.
Benoît Kambéré, même l'Église est intéressée à la question sécuritaire de l'Est.
C'est tout à fait normal.
Comment est-ce que vous analysez cet appel des évêques?
Il est tout à fait normal que nos pères les évêques, moi je suis catholique, je le précise, et fier de l'être, n'est-ce pas? Il est tout à fait normal que nos pères les évêques s'intéressent à ce qui touche la population, le social de la population, les atrocités que vivent les populations. Il est tout à fait normal que c'est seulement de cette façon qu'ils peuvent intervenir. Eux ne peuvent pas porter les armes, eux n'ont pas droit à des conférences politiques ou à des scènes diplomatiques pour porter la voix. Il n'y a que dans ce cadre-là, de la conférence des évêques d'Afrique et de Madagascar, où l'Afrique est déchirée par des conflits à gauche et à droite, et particulièrement dans notre pays, d'autant plus que cette conférence des évêques s'est tenue en République démocratique du Congo. C'était le lieu, n'est-ce pas, que on élève la voix pour demander que des solutions durables soit trouvée aux problèmes qui assaillent les populations de l'Est, les conflits, les atrocités de tous bords, les viols, les déplacements. Il était tout à fait normal que les évêques élèvent le ton.
On reproche à ces évêques d'avoir lancé cet appel ou ce message à des acteurs africains qui ne sont que des acteurs secondaires et pourtant des acteurs principaux sont connus.
Mais tout à fait, les acteurs sont connus. Et là, les messages des évêques, ce n'est pas seulement aux Africains, c'est aux habitants de la terre, aux hommes de bonne volonté, comme ils le disent toujours, ils envoient aussi le message à leurs collègues évêques d'autres pays. Vous avez entendu qu'on a demandé à chaque conférence épiscopale d'aller vers les dirigeants de ces pays pour que ces atrocités cessent. C'est vrai, ce sont nous, les Africains, nous, qui pâtissons de ce qui est en train de se passer. Il est tout à fait normal qu'on commence par sensibiliser les nôtres. Peut-être qu'en étant sensibles, ils ne vont pas tomber dans les sirènes des gens qui les envoient de l'extérieur.
Marcelin Mandouakil, est-ce que vous pensez que cet appel des évêques sera entendu par les politiques congolais et africains impliqués dans le conflit à l'est de la RDC?
Il faut d'abord reconnaître une chose. Les différentes guerres que nous connaissons sur notre territoire, ce n'est pas le fait de peuple, des dirigeants.
Des dirigeants, oui.
Essentiellement des dirigeants qui cherchent à sauvegarder leurs intérêts, comme vous le savez. Et les évêques auraient pu d'abord se dresser à ces dirigeants qui sont impliqués. Et aux décideurs du monde aussi, c'est-à-dire États-Unis, Nations Unies, les multinationales, de citer expressement, pour dire, messieurs, selon nos rapports, voilà la situation qui est là. Alors faisons tous ensemble que quand même que cela cesse. Donc ils ont bien fait, mais je crois qu'ils peuvent aller plus loin, parce que les évêques connaissent exactement ce qui se passe et qui tire les ficelles, ils les connaissent. Bon, évidemment, des princes de l'Église, ils sont obligés de parler un peu comme des diplomates, mais je crois que même en coulisses, ils peuvent intensifier des pressions en direction des personnes les plus concernées. Mais leur appel, c'est vrai, tombe à point nommé.
Passion Débaba, selon vous, quel est le mérite des recommandations de cet appel des évêques, à votre avis?
Moi, je pense que les évêques ont fait leur travail. Au-delà d'évangéliser la parole du Christ, ils sont partis au-delà parce que ils ont aussi une responsabilité sociale envers la population qu'ils dirigent et envers la population qu'ils prêchent. Bon, par rapport au message, je suis en train de voir qu'analysant le message du secrétaire général de la conférence épiscopale de la RDC, le père Léonard Santati, il s'avère que les évêques préconisent beaucoup plus la solution diplomatique et politique au détriment de la solution militaire, dès lors que, selon eux, cette solution, les guerres qui ont déjà duré presque des décennies ont conduit à la perte en vie humaine de plus de 6 millions de Congolais, et que maintenant les bilans continuent à s'alourdir. Il faudrait à tout prix impliquer les autres autres membres de la communauté africaine et internationale, et même ils sont parvenus à ce que même l'Union européenne à s'impliquer davantage pour réguler ou soit pour restaurer la paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, il est aussi important de souligner dans ce message, bien sûr, qui a le mérite d'être félicité, que, comme l'a bien précisé mon confrère, il faudrait que les évêques parviennent, soient à même d'identifier ce que je qualifie des acteurs clés de ces conflits. Bien sûr, c'est une guerre imposée parce qu'il y a des intérêts qui doivent nécessairement revenir à une certaine catégorie de personnes qui sont peut-être en dehors ou en dehors de la RDC ou soit dans notre pays, la République démocratique du Congo. Je pense que au-delà des interpellés, il faudrait que les évêques mènent des actions concrètes par rapport aux recommandations, par rapport à ce message. Je voudrais également rappeler une fois de plus que ces évêques, à un certain moment, au niveau de la RDC, ils avaient mené une campagne de conscientisation nationale pour amener aux gens, à la population congolaise, de ne pas donner la place aux idées de balkanisation. Et nous avons vu à travers la RDC comment tous que les évêques du Congo sont éparpillés partout pour sensibiliser la population. Et même, ils ont été même à Goma, à côté du rebelle du M23 pour sensibiliser cela. Mais ce qui est important ici, c'est d'identifier de manière claire les acteurs impliqués, qu'ils soient dans les aspects négatifs et positifs. C'est là qui encourage le M23, c'est là qui soutient tant financièrement, techniquement et militairement le M23 et de leur adresser un message clair par rapport à la paix, par rapport à la stabilisation de la région des Grands Lacs. Parce que si aujourd'hui la région des Grands Lacs, dans la région des Grands Lacs, il peut y avoir des problèmes, c'est parce que seulement la RDC et le Rwanda ont des problèmes. Les deux pays occupent une position stratégique importante pour restaurer la paix dans notre région, de la région des Grands Lacs.
Merci patient Benon Kambere. Nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. En un mot, pour que ces recommandations des évêques catholiques ne restent pas lettres mortes, que faut-il faire?
Il faut continuer à parler. Eux ne peuvent crier que dans le désert. Ce sont les princes de l'Église. Ils ne prennent pas de Kalachnikov. Ils doivent prier à temps et à contre-temps pour que les dirigeants africains, les dirigeants de ce monde comprennent que les populations sont en train de souffrir de par leurs intérêts égoïstes à la tête des pays respectifs.
Marcel Mandwakila, pour que ces recommandations des princes de l'Église ne restent pas lettre morte, que faut-il faire?
C'est comme Patient l'a dit, il faut qu'il y ait des actions. Ils peuvent mobiliser le peuple à travers leur messe pour que ce message aille beaucoup plus loin. Mobiliser les peuples, pas seulement le Congolais, les Rwandais, les autres tous à travers l'Afrique, et également mener des actions à l'extérieur, c'est-à-dire en Occident, pour éveiller la conscience de l'opinion intérieure là-bas, de manière à ce qu'il y ait beaucoup de pression qui fasse baisser la tension.
C'est avec vous, Marcel Mandwakila, qui nous mettons un terme dans cette émission. Je rappelle que vous êtes directeur des rédactions au quotidien Forum des As. C'est un quotidien qui paraît à Kinshasa. Je recevais également dans cette émission Benoît Combéré. Il est rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs. Et nous avions également Patient Débat Baloufira, journaliste et reporter à la radio Le Messager du Peuple à Ouvira et correspondant de l'ONG Journaliste en Danger ici à Grand Lac au sud Kivu. Cette émission a été présentée par Samuel Kachako, Guy Maté a été à la réalisation et au niveau de la technique, Jean-Noël Mokondo nous avait tenu compagnie et cette émission est supervisée par Julien Nyamoni. La rediffusion de cette émission c'est demain matin à 4h15 heure de Kinshasa. Merci et bon week-end chez vous sur les antennes du Radio Capi.